bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je vais aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre.
Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eve Laforêt, que j'ai déjà reçue sur le podcast auparavant, hein, dans la saison 1. J'avais reçu Eve pour un épisode sur la protection des ressources. Et aujourd'hui, ben, on va jaser plus de questions qui ont rapport avec nos chiens réactifs. Puis, ben là, tu sais, vous le savez, la saison 3, on a parlé beaucoup d'enrichissement. Fait que les questions que je vais poser à Eve, ça va être beaucoup pour, justement, les mettre en lien un peu avec ce qu'on a discuté dans les épisodes. Ben, ce qu'on a discuté. Ce que je vous ai parlé, parce que j'étais toute seule à mon micro, vous n'étiez pas là pour me répondre. j'ai le plaisir de suivre Eve sur les réseaux sociaux, son infolettre, son nouveau podcast. Sur lequel elle m'a d'ailleurs reçue, donc je vous mettrai le lien vers ça. Et bien, je trouvais qu'Eve, elle a des choses super intéressantes à nous dire, fait que j'avais envie de l'inviter. Fait que, ben bonjour Eve!
Ben, allô! Mais en fait, t'as menti, c'est moi qui arrêtais pas de t'achaler. « Hey Audrey, ça tenterait pas de me réinviter à m'en aller, tu sais? » Hint, hint! Ça me dérange pas de le dire, donc merci de m'avoir reçu, je suis super contente. Je suis contente aussi de partager ça avec toi parce que pour moi, la communauté entre les différents professionnels du monde animal, c'est quelque chose qui est vraiment super important.
Ben, je pense comme toi, puis tu sais, si j'avais pas pensé que ce serait pertinent, je ne t'aurais pas réinvité, donc je prends quand même le crédit.
OK. Oh, c'est parfait.
Mais avant de commencer l'épisode, Eve, qu'on rentre dans notre discussion, il y a quelque chose de gros qui arrive genre comme demain. Je commence le 17 avril, qui s'appelle l'événement Réaction. Puis ben oui. Là, je me suis dit qu'on allait le plugger parce que je vais faire partie de la programmation. Fait qu'est-ce que tu pourrais nous présenter? C'est quoi Réaction?
Oui, Réaction, c'est un événement que moi et ma collègue Émilie Rosa, on organise. C'est la deuxième édition cette année. Au printemps, l'année passée. Et cette année, vous le savez, tout le monde, vous avez probablement réalisé, bon Sam, mon chien, genre, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a régressé. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu ça partout. Donc, si c'est votre cas, c'est normal. C'est normal qu'il y ait eu, au fond, des légères régressions de votre chien en promenade dehors avec le printemps. Et l'événement Réaction, c'est une grosse semaine de présentation. On a une quinzaine de présentateurs, dont Audrey, dont moi et Émilie, bien entendu, aussi. Donc, on est une quinzaine de présentateurs. On va vous présenter une série de webinaires sur plein de sujets qui touchent à la réactivité. Et on va vraiment venir voir la réactivité de plein d'angles différents. Ce ne sera pas juste un exposé sur c'est quoi la réactivité. On va vraiment avoir plein de façons de l'avoir, plein de façons aussi de vous donner des trucs, des conseils, quoi faire, quoi pas faire. Comme par exemple, toi, Audrey, tu vas présenter sur les impacts du stress, le niveau global de stress de l'animal, sur sa réactivité, ce que ça veut dire en bon français, là, parce que on dit, oh, les impacts du niveau de stress global, c'est quand votre chien, il va pas bien dans son quotidien parce qu'il est stressé, comment est-ce que ça va avoir un impact sur ses problèmes de comportement? Et moi, je vais parler des associations qu'on essaie de faire, mais sans s'en rendre compte, en essayant d'entraîner notre chien à sentir bien, on est en train de l'entraîner à sentir mal sans qu'on le veuille et sans qu'on s'en rende compte. Donc ça ici, ça va être super passionnant, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ont ces problèmes-là. Donc ça va vraiment vous aider. Et comme je le disais, Réaction, c'est une douzaine de webinaires. On va être une grosse gang ensemble. On va triper parce qu'un de nos buts, c'était vraiment de briser l'isolement que les propriétaires de chiens réactifs sentent, souder la communauté ensemble aussi. Et l'événement, là, c'est, le prix, c'est des peanuts. C'est 20$ pour avoir accès à toutes les présentations, toutes les rediffusions. On a même un podcast privé cette année. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment gros. Donc, je vous invite tout le monde à venir nous rejoindre dans l'événement. Sérieux, si vous avez un chien que vous vous dites, il est réactif, bien entendu, mais sans nécessairement qu'il soit réactif, que vous vous dites, il semble que mon chien aurait besoin d'un petit peu plus d'aide pour sentir mieux dans ses émotions. Vous êtes à la bonne place. On est là pour vous. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de vous inscrire pour entendre Audrey parler, bien entendu, moi, tout les présentateurs, écoutez ça en votre temps. Et Audrey, je suis certaine là, que tu vas mettre là, tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, j'ai vraiment hâte de vous parler aujourd'hui, bien entendu, mais aussi de vous voir dans l'événement Réaction. Ça va être quelque chose. Manquez pas ça.
Absolument. Puis, juste préciser que dans le fond, toutes les présentations vont être disponibles en rediffusion et
oui.
que c'est en vente jusqu'au 4 mai. Donc,
oui.
Si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous avant que la date limite passe.
Oui.
Donc, génial. Encore une fois, ben, un gros merci de m'avoir invité sur cet événement-là. Mais aujourd'hui, on va parler de réaction, de réactivité. Mais la thématique de cette saison-ci, mon podcast, c'était l'enrichissement. Puis, il y a des choses que je t'ai vues publier, soit dans ton infolettre, soit en commentant sur des gens qui allaient chercher de l'aide. Que je me disais, il y a des beaux liens. Je trouve que tu as des belles approches, des belles manières d'expliquer les choses. Puis je dis, tu es tout à fait aligné avec tout ce que j'ai dit cette saison-ci. Fait que, ben, Colin, je vais amener Eve pour discuter avec moi de tout ça. Puis une des choses que j'ai en tête, parce que, tu sais, moi, quand je parle d'enrichissement, je parle vraiment d'une manière globale. Vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir le quotidien de notre vie, de rendre sa vie la plus intéressante possible. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire traîner leur chien partout. Et il y a beaucoup de gens qui vont exprimer, qui se sentent coupables parce qu'ils vont mettre leur chien à l'écart de leurs activités. Puis, je te donne un exemple. J'ai un chien réactif au congénère. J'ai une amie qui me dit hey, moi, je m'en vais marcher à la plage avec mes chiens. Tu veux-tu venir avec moi? Puis là, je dis ben oui, ça me tente, ça va être le fun. Mais là, je me sens coupable parce que moi, mon pauvre chien, il va rester tout seul à la maison pendant que moi, j'ai du plaisir à la plage avec mon ami et ses chiens. Fait que mon chien, il manque l'activité.
Oui.
Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu me dirais?
Voyons, tu ne fais pas confiance à ton chien, tu veux qu'il se sente brimé? Non, n'importe quoi. Ça, c'est généralement ce que les gens vont penser à l'intérieur d'eux ou ce que les gens qui ne connaissent pas vraiment les gens, ou tu sais, comme les mononcles, je connais ça les chiens, mais au fond, ils ne connaissent pas vraiment ça, les chiens vont penser. Puis c'est normal d'avoir ces besoins-là parce qu'au fond, là, personne chez les êtres humains, veulent se sentir exclus. Puis on a probablement aussi des souvenirs, des fois, de moments où on s'est fait exclure d'activités, puis ça nous a fait mal en dedans. Fait qu'on n'a pas nécessairement... On veut pas que notre chien se sente comme ça. Bien entendu, c'est tout à votre honneur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un chien, c'est un organisme qui est quand même assez simple. Pas si simple que ça, bien entendu, parce que ça, on n'aurait pas des spécialistes en comportement canin, mais un chien, ça réfléchit de manière beaucoup plus simple qu'un être humain. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'un chien, lui, ce qu'il sait, c'est est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien? Si mon chien il est réactif, OK, aux autres chiens ou peu importe quoi, là, ou on a un chien là, qui fait tellement d'anxiété de généraliser, il réagit à tout, là, tu sais. Ce que ce chien-là, comme je le disais, c'est est-ce que je me sens bien ou pas bien? Si je l'amène à la plage, là, ça va mal. Là, tout le monde, vous êtes tous capables d'imaginer dans votre tête, là, je l'amène en me disant, je vais aller faire une belle activité, il va avoir du plaisir, quand on va rentrer à la maison, il va être tranquille, puis là, on y va, Et là, il y a premièrement, j'appe. Là, on se sent mal. Puis on dit à notre ami, ah, excuse-moi, d'habitude, il est pas de même. Puis là, on essaie de gérer notre chien. Puis là, il y a plein d'autres chiens. Puis là, il y a un maître que son chien, il n'est pas attaché. Puis là, il vient nous voir. Puis là, il dit, hey, mon chien. Puis là, il dit, ben non, c'est correct. Il pense que. Et là, il y a des enfants qui nous courent après pour flatter. Tout ce qui pouvait aller mal, ça a mal été cette journée-là. Vous rentrez chez vous, là, vous êtes au bout de votre vie. Votre chien il est complètement là, surstimulé, il saute partout. Puis là, vous vous dites, mais ça tente pas, genre, de te coucher, là? Moi, j'en ai plus de jus, là, tu sais. Donc, dans un cas comme celui-là, est-ce que votre chien, il sent bien quand il était à son activité? Si votre chien est réactif, c'est très possible que la réponse soit non. Ce que le chien sait, comme on disait, c'est que est-ce que je me sens bien ou pas bien. Dans le cas où on va décider, par exemple, de laisser le chien à la maison, d'ailleurs, j'ai un épisode de mon podcast que je ploye où justement je réponds à la question est-ce que je devrais amener mon chien ou non à une activité. Il y a trois règles, je ne vous les répéterai pas là parce que sérieux, on a un beau plan pour aujourd'hui. Puis, vous pouvez aller l'écouter. Donc, il y a certaines questions que je vais vous poser pour vous guider à savoir si je l'amène ou non. Mais si vous décidez de ne pas l'amener parce que vous vous dites le risque à mon chien, il pratique des comportements que je ne veux pas, que moi, je ne me sentirais pas bien là-dedans s'il fait des comportements, par exemple, je n'ai pas envie nécessairement que mon ami me juge, que ça n'aille pas bien, de passer mon temps à essayer de gérer la bête, que je décide de le laisser à la maison. Ce qu'il sait, c'est que quand il est à la maison, ben là, il se sentait bien, tout simplement. La raison pour laquelle on se sent mal quand on laisse le chien à la maison, comme je le disais au début, c'est parce qu'on a peur que le chien, il se sente mis à l'écart, qu'il ne profite pas de ce qui devrait normalement profiter en tant que membre de la famille. Mais ça ici, c'est parce que nous, on a les facultés intellectuelles de évaluer c'est quoi la normalité, le traitement qu'on devrait avoir et aussi de faire confirmer notre place dans le groupe social. Ce que ça veut dire en bon français, c'est que, admettons que vous êtes un enfant, là, t'sais, un jeune enfant, votre famille décide d'aller à une activité, ils vous laissent à la maison. Qu'est-ce que vous allez penser dans un cas comme cela? Vous allez penser qu'on vous prive de quelque chose. Vous allez faire une histoire par rapport au fait qu'on vous a laissé à la maison par rapport à vous. Et soit vous allez vous dire, j'ai pas droit au même traitement que mes frères et sœurs. C'est une chose que vous pouvez peut-être vous dire. Ou alors, j'ai dû faire quelque chose pour pas qu'il m'amène. Je le mérite pas. Je n'ai pas été assez bon. Il m'aime pas assez. Okay. On se comptera pas des histoires de horreur, l'enfant martyr ici. Parce que vous allez créer une histoire par rapport à cette décision-là de vous laisser à la maison. Ce qui est normal chez un être humain parce que on réfléchit bien entendu à un degré beaucoup plus élevé qu'un chien. Le chien, lui, comme j'ai dit, ce qu'il sait, c'est que est-ce qu'il se sent bien ou il ne se sent pas bien. S'il est à la maison, il est tranquille, il est relax, il fait ses petites affaires dans le cas d'un chien qui ne fait pas d'anxiété de séparation, bien entendu. Vous rentrez à la maison, vous êtes zen, vous avez fait vos activités, c'était plaisant. Vous rentrez, vous allez vous en occuper de lui. Lui, ce qu'il voit, c'est que ça va bien. Il ne va pas se conter une histoire sur pourquoi il n'a pas eu droit à quelque chose que s'il était un chien normal, il aurait pu avoir. Et ça, ici, c'est beaucoup trop élevé comme type de réflexion. Donc, je vous rassure, si c'est votre cas, okay, si vous avez un chien qui est réactif et que des fois, vous devez faire le choix de ne pas l'amener à un événement, votre chien ne va pas se sentir mis à part d'une activité. Il ne va pas songer à sa propre valeur ou sa position dans le groupe social de votre famille par rapport à ça. Il va juste voir que, au fond, il se sentait bien quand il était à la maison. Il ne sait même pas que vous en allez à la plage. Là. Même si c'est écrit sur le calendrier aux dernières nouvelles, il ne sait pas lire. Moi, je mets tous mes rendez-vous dans Google Calendar. Mes chiens ne savent pas se servir d'un ordinateur. Ils n'ont pas conscience de ça. Donc, j'espère que ça répondait à ta question. Audrey, c'est sûr qu'on pourrait parler en long et en large de pourquoi pas l'amener, pourquoi c'est un meilleur choix aussi. C'est normal de se poser ces questions-là, mais il faut se rappeler que la notion de justice et de dû, les chiens ne le voient pas de la même façon. Il y a comme un micro-sens de justice chez les chiens, on pourrait en reparler, mais c'est plus dans l'immédiat, c'est moins par rapport à une représentation de ce qu'on devrait avoir et d'une histoire sur notre valeur qu'on se construit par rapport à cette décision-là.
Oui, ça répond tout à fait à ma question. Puis ce que je vais faire, c'est que je référerai les gens, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode, là, justement, sur ton épisode qui parle de ben comment je prends une décision à savoir est-ce que j'amène mon chien ou non. Fait qu'on n'en rediscutera pas ensemble aujourd'hui parce que justement, tu as déjà produit du matériel là-dessus. Les gens pourront aller le consulter. Ils s'abonneront en même temps à ton podcast parce que c'est super intéressant. Puis si vous êtes plus lecture, ben sachez que Eve elle a aussi une infolettre, fait que je mettrai le lien pour que les gens puissent s'abonner à ça aussi s'il y en a que ça intéresse. Mais moi, je trouvais ça intéressant de parler de ça parce que c'est ça souvent les gens quand on parle d'enrichissement, eux autres, ils pensent que c'est de traîner son chien partout, puis tout ça, puis qu'on a justement, comme tu dis, on se crée des histoires. Puis tu sais, notre chien, il fait comme bien plus pitié dans notre tête que dans la réalité.
Tu sais, au fond, est-ce que le chien ne ferait pas plus pitié si on l'amène à répétition à des endroits où il ne se sent pas bien parce qu'il n'arrête pas de déclencher? Est-ce que c'est vraiment de ça qu'il a besoin pour se sentir bien et vivre une vie épanouie ou que ce soit qu'on fasse des choix pour lui du type d'activité qu'il va faire, bien entendu, afin d'éviter qu'il ait ces contacts-là répétés avec des choses qui, pour l'instant, il n'est pas capable de les gérer ou il a besoin de notre degré d'aide tellement élevé pour être capable de les gérer que nous, on n'aura pas de fun là-dedans. Là. Puis à un moment donné, du jus pour l'aider dans ses émotions, on n'en aura plus.
Tout à fait. Puis ben parlant de type d'activité, ça m'amène à ma prochaine question. Puis tu sais, j'ai fait un épisode sur l'exercice physique. Que l'exercice physique, c'est un besoin qu'on doit combler chez notre chien.
Oui, madame.
Puis justement, ben il y a beaucoup de gens qui pensent que ben exercice physique, c'est un besoin, donc je dois sortir mon chien marcher à tous les jours.
Oui.
Mais quand on a un chien réactif, des fois c'est pas toujours nécessairement évident. C'est
En
quoi
effet.
ton opinion par rapport à ça?
Ah bon sang. Ça, c'est genre la question à 100$. Quand tu m'as envoyé là, t'sais, une question, parce que, tu sais, avis divulgateur, tout le monde, Audrey envoie les questions d'avance aux gens avec qui elle a fait des entrevues. Quand je l'ai vue, j'étais comme, ah, bon sang. Allez-moi pas ma réponse, parce que moi, je n'offre jamais des réponses typiques, tu sais, mais tu m'avais dit, ah, non, Eve, tu sais, je le sais, c'est pour ça que je t'ai invitée. Fait que je vais te donner la vraie réponse que moi, je pense. Beaucoup de spécialistes dans le domaine animal vont dire aux gens de remplacer l'exercice physique par de l'exercice mental. Donc, de, par exemple, faire des jeux de recherche, de nourrir dans des jouets interactifs, d'apprendre différents tours à leur chien, ça peut être de faire du fitness, ça peut être de faire des sports. Toutes ces activités-là que je viens de nommer sont d'excellentes activités à faire avec notre chien. Ceci dit, un chien, surtout moi, là, les gens qui me contactent beaucoup en réactivité, c'est des gens qui ont des chiens faits pour une fonction. Donc, des chiens de travail à la base, même si ce chien-là spécifiquement ne travaille pas. Le fait de se dépenser physiquement chez les chiens, c'est un besoin. On ne peut pas remplacer l'exercice physique par de l'exercice mental. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, peu importe à quel point vous voyez des infographiques mignons avec des belles couleurs sur les réseaux sociaux qui vous disent que gruger pendant 15 minutes, ça équivaut à une promenade de 3 heures. Ce n'est pas vrai. Les besoins physiques, de dépenses physiques de votre chien ne sont pas interchangeables sur le long terme, on ne parle pas de court terme, on parle de long terme, avec les besoins de dépenses mental. Ce sont, au fond, deux besoins qui ont besoin, qui doivent être comblés. Ce qu'on veut dire par dépenses mentales, je sais que tu l'as expliqué, Audrey, mais au cas où il y a juste du monde qui nous pogne sur le fly, je vais l'expliquer très brièvement. C'est tout ce qui va dépenser le cerveau de votre chien. Alors que les dépenses physiques, c'est ce qui va dépenser les pattes de votre chien. Okay? C'est la meilleure façon de l'expliquer. Sauf que quand on a un chien à haut besoin de dépenser son énergie physique, comme tu le disais, c'est un défi, OK? C'est un problème. Parce que comme on disait au début, au fond de la présentation, si je remets continuellement mon chien dans une situation dans laquelle il va déclencher, dans le cas d'un chien réactif, donc mon chien voit un déclencheur, mettons, OK, d'autres chiens, OK, mon chien, il n'aime pas les autres chiens, puis là, il voit un autre chien, puis là, il se met à japper, puis à se pitcher au bon bout de sa laisse, il me fait honte devant tout le monde, OK? Il le fait une fois, bon, c'est pas si pire, genre. Il le fait deux fois, bon, c'est pas si pire, là, je suis gênée, là, mais bon, genre. Mais tu sais, plus il le répète dans la promenade, pire c'est. Moi, là, je me sens de moins en moins bien dans cette promenade-là. Et là, on répète ça jour après jour, après jour, après jour, après jour. Le chien, il voit l'air dehors, puis il déclenche, parce qu'il en peut plus. Nous, on n'en a plus du jus, OK? On n'est plus là. Je veux dire, le chien, on voit un autre chien, on devient complètement crispé avec notre laisse, OK? Parce que nous aussi, on va finir par avoir une association négative envers les déclencheurs. Moi, j'ai eu des chiens qui déclenchaient envers les étrangers. Donc, ils chargeaient tout le monde dehors dans la rue et je l'ai réglé. Mais au début, là, hey man, c'est drainant de gérer ces situations-là. Et souvent, le conseil classique qu'on va recevoir, c'est arrête de promener ton chien. C'est comme ça, maman. Arrête de, moi, je rêve, va pas promener ton chien à cet endroit-là, mais je vais y revenir. Fais de la dépense mentale à la place. Mais là, on a un chien, là, par exemple, là, un berger australien, un border collie. Moi, j'ai une dalmatienne, j'ai un corgi aussi, ça peut être un berger allemand, qui peu importe quoi. On a un chien fait pour une fonction qui a beaucoup d'énergie et on essaie de couper l'exercice physique à ce chien-là est de remplacer par quelque chose qui est stimulant mentalement. C'est pas nécessairement mauvais, sauf que l'exercice physique permet aussi au chien et au système nerveux du chien de s'apaiser, alors que la stimulation mentale va lui permettre de travailler, va combler ses besoins cognitifs aussi. Ça amène pas le même type de bien-être. Et si on a un chien à haut besoin et qu'on vient couper dans une des sources d'apaisement pour se sentir bien, ce qui va se passer, c'est que ça va créer un certain manque. Et ce manque-là va se traduire comment? Par encore plus de comportements désagréables. Donc, souvent, les gens ont l'impression d'être trouvés pognés entre soit je vais le promener dans le quartier puis il arrête pas de péter des coches à répétition, puis ça va aggraver sa réactivité, ou je le promène plus, puis ça va, comme par la bande, je vais essayer de faire ce que je peux avec de ce qu'on appelle de l'enrichissement, donc de la stimulation mentale, des jeux de recherche, je vais l'entraîner, je vais faire ci, je vais faire ça, ce qui est bon, là, comme je l'ai dit, il faut le faire, mais ça comblera pas son besoin d'exercice physique. Et donc, ça aussi, ça va avoir une incidence négative sur la réactivité. Et là, les gens se sentent coincés entre ces deux choses-là. OK, moi, je suis là pour vous dire non, non. La solution, c'est pas je me promène à répétition dans le quartier, puis mon chien, il n'arrête pas de déclencher puis de me faire honte devant tout le monde, puis il se sent de moins en moins bien, puis moi, je me sens de plus en plus impuissante dans sa réactivité ou je le promène plus. Puis, il n'arrête pas de japper à n'importe quel bruit à la fenêtre parce qu'il a besoin de bouger. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller séparer les différents types de promenades que vous faites avec votre chien. Moi, des chiens à haute énergie, comme je dis, j'en ai, OK? Je le sais, c'est quoi. Le Shiba que j'avais avant, il n'avait peut-être pas besoin de se promener à chaque jour. Mais Border Collie, ils ont besoin. OK? Donc, quand je vais promener mes chiens pour qu'ils dépensent leur énergie, tu sais, comme là, avant qu'on enregistre, là, je suis pas folle, j'ai été promener mes chiens pour qu'ils dorment, tu sais. Ça aide après ça quand on enregistre.
C'est clair.
Mais quand je vais les promener pour qu'ils dépensent leur énergie, je vais aller les promener à un endroit où il n'y a pas de déclencheur. Puis là, tout le monde dit, ouais, mais là, Eve, là, ça se fait pas, blablabla. Et mais ça ici, c'est votre responsabilité. Vous allez devoir trouver des endroits, des heures, des façons d'aller promener votre chien réactif qui a besoin de vous, puis qui n'est pas capable de se gérer encore super bien devant un déclencheur, à un endroit où il n'en verra pas, ou quasiment pas. Tu sais, des fois, ça arrive, là, mais vous voulez que vous vous attendez à rien croiser. Si vous êtes capable de prédire, oh, dans ma promenade, je devrais croiser X déclencheur, allez pas là, pour faire des dépenses d'énergie physique. Vous allez aller à ces endroits-là. Des fois, ça va prendre de la créativité de votre part. Des fois, ça va prendre aussi, comme j'ai une cliente qui disait, du moment où j'ai compris de mettre mon chien dans la voiture pour aller me promener à un endroit où il n'y avait pas grand monde, le comportement de mon chien a clairement changé. Et vous allez faire ça. Votre chien va pouvoir dépenser son énergie. Comment? Sans être constamment aux aguets. Et ça ici, c'est la clé pour avoir un chien qui va commencer à s'apaiser, qui ne développera pas d'hypervigilance. On n'aura pas d'anxiété qui va embarquer là-dedans à force de contacts répétés avec des déclencheurs, ce qui fait que le chien va se mettre à les chercher. Et ça ici, ça va être vos promenades pour vider les batteries physiques de votre chien. Parce que si, comme moi, vous avez des chiens à haute énergie, ou je pense que Taiga en a quand même pas mal de l'énergie, là.
Ouais. Honnêtement, je pensais quand je l'ai adoptée qu'elle aurait plus d'énergie que ça, parce que c'est une croisée husky, mais
Ouais.
je la trouve pas mal princesse du foyer pour une croisée husky.
Ben, j'ai eu ça avec Coro aussi. Coro aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte quand je l'ai eu, là, je suis comme, OK, ça, c'est un husky mélangé berger, fait qu'on va faire toutes les activités. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop. Là, on rentre dans la surstimulation, ce qui arrive aussi. Donc, là, vous allez aller, comme je le disais, faire les problèmes avec votre chien à un endroit où il sera pas constamment aux aguets de il est où le déclencheur qui va sortir de nulle part pour que je pète ma coche, OK? Parce que c'est pas bon pour votre chien, c'est pas bon pour vous aussi. Vous aussi, là, vous avez besoin là, de vous calmer le pompon à un moment donné. Fait que vous allez faire ça. C'est comme ça qu'on va dépenser l'énergie physique de notre chien. Tout ce qu'on a nommé, là, tu sais, les recherches alimentaires, les trucs à gruger, les entraînements dans la maison, vous allez continuer de faire ça aussi. C'est comme ça qu'on va à la fois... dépenser l'énergie mentale de notre chien, mais c'est aussi comme ça qu'on va développer des outils pour nous aider avec la réactivité de notre chien. Parce que on ne va pas commencer à essayer d'entraîner notre chien, par exemple, à nous regarder, à nous suivre, à virer de bord, à suivre nos indications, à peu importe quel type d'outil qu'on va avoir besoin pour sa réhabilitation en réactivité. Quand il y a un autre chien ou un inconnu ou peu importe le type de déclencheur dans sa face. À un moment donné, il y a Denise Fenzi, qui est une grande intervenante aux États-Unis, avait dit, c'était-tu elle ou c'était Deb Jones qui avait dit ça, je me souviens plus, en tout cas, c'est pas important. Et elle avait dit, vous commenceriez pas à entraîner un chien à marcher au pied dans le ring en compétition. Puis tout le monde était comme, mais bien entendu, je ferais pas ça. Et cette personne-là avait dit, mais c'est la même chose pour tout ce que vous avez besoin d'entraîner. Donc, votre... c'est dans l'information sur le rappel, je viens de m'en souvenir, bref, c'est pas important. Et donc, vous allez entraîner ces outils-là à part. Ça ici, ça va faire partie de la stimulation mentale et de l'enrichissement. Ça ici, c'est bon. On va l'entraîner dans un contexte où le chien il sent bien, on est en maison, dans la cour, ça va bien. Hein? Pas qu'il est en train de se demander s'il va mourir en même temps qu'on est en train d'essayer de se donner des biscuits pour l'entraîner. Et en même temps, ce qui est super cool, c'est que non seulement vous allez dépenser l'énergie mentale de votre chien, mais en plus, il va apprendre à vous écouter, ce qui est toujours une bonne chose. Et troisièmement, vous allez développer des outils pour vous aider avec sa réactivité. Hey, c'est-tu pas génial? Bien entendu, dans vos promenades, dans les endroits où il ne se passe rien, on peut mêler aussi pour généraliser. Il n'y a rien qui est 100% en huis clos, bien entendu. Là, je vous présente ça de manière super séparée parce que les gens ont besoin de le comprendre. Mais là, il y a un autre type d'énergie aussi. Les chiens et les êtres humains ont de l'énergie émotionnelle également. Et l'énergie émotionnelle nous aide à gérer les différents pépins ou joies qui nous arrivent au quotidien. Et ça ici, la jauge de chaque personne, elle est différente. Et bien entendu, c'est sûr que si on rentre dans la résilience, et les autres, on peut influencer ça. Mais à la base, ce type d'énergie-là, l'énergie émotionnelle est quand même assez basse, tant chez les gens que chez les chiens. Ce qui fait que si vous avez un chien à haute énergie physique, moyenne énergie mentale, mais très, très basse énergie émotionnelle, comme beaucoup de chiens de berger, en passant, tu sais, hint, hint. Si vous utilisez des promenades dans le quartier où le chien déclenche à répétition pour y dépenser son énergie, il va encore avoir full d'énergie physique, il va être complètement surstimulé mentalement parce que la stimulation mentale, c'est pas juste dans les puzzles puis les topos qu'il a, là. C'est aussi dans tout ce qui se passe dans l'environnement. C'est la faculté de votre chien à gérer toutes les informations que son cerveau accumule. Puis son énergie émotionnelle, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus, 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 plus. Donc, essayez de séparer ça, là, tu sais. On va séparer tout ça. On va dépenser l'énergie physique de notre chien dans un endroit qui est calme, où il se sent bien, je suis pas capable de prédire qu'il va y avoir des déclencheurs. C'est possible que ça arrive, mais si jamais ça arrive, j'ai du jus en masse et mon chien aussi pour le gérer, parce que ça va arriver une fois par promenade, peut-être deux, mais si ça arrive plus souvent, là, je vais commencer à me demander est-ce que c'est vraiment l'endroit où promener mon chien? Les dépenses physiques, mental, excusez-moi, laissez-moi commencer à être fatiguée, va être à part. Et c'est là aussi qu'on va développer des outils pour nous aider les quelques fois où on va croiser des déclencheurs. Et là, quand je me sens là, sur le piton, là, aujourd'hui, là, on fait de la réhabilitation, ça va faire des exercices, je me sens prête, mon chien, il est prêt, il se sent bien aussi, genre, on n'a pas eu un rendez-vous chez le vétérinaire à matin, il n'est pas déjà stressé, on y va. Minou, on s'en va entraîner. Là, je prends mon chien, je sors dehors à un endroit où je suis capable de prédire qu'il va y avoir des déclencheurs. Et là, j'y vais dans un seul et unique objectif, réhabiliter mon chien. Parce qu'il faut penser que chaque fois que notre chien voit un déclencheur, peu importe c'est quoi le type de déclencheur, c'est une séance d'entraînement. Puis, on ne peut pas faire des séances d'entraînement à répétition, on ne sera plus là. Mais là, on est là, là. On s'en va, j'ai mon chien, je l'entraîne, il y a un autre chien, OK, là, je fais tout bien, j'utilise tous les outils que j'ai développés, à part, j'apprends à mon chien, je suis là, je t'aide, et je vais faire des exercices de manière à ce que mon chien, peu importe c'est quoi le plan que vous, là, c'est pas ça le thème d'aujourd'hui, que vous suivez, pour que mon chien apprenne qu'au final, il y a un déclencheur, il se sent bien, son humain qui l'accompagne, il sait ce qu'il fait, il a pas l'air de paniquer au bout de la laisse pendant que le chien jappe, tout va super semi-bien, ok, disons semi-bien, là, parce que des fois ça arrive que ça va moins moins bien, et bien entendu je vais rester à la maison pendant que je me sens toujours, parce que là je suis en train de faire un lead-up à ta question qui s'en vient.
J'avais comme remarqué.
Donc là, pendant que ça va encore bien, que genre, man, mon chien, il est champion, moi aussi, je suis une championne, ou en tout cas, si je me sens pas si championne que ça, ça va pas trop, trop pire, je vais rentrer à la maison en me disant, mais quelle belle séance d'entraînement, j'ai hâte d'en refaire une autre. Et là, bien entendu, on va laisser le chien se reposer et on va retourner à nos activités où on va se séparer. Pourquoi? Parce que à force de répéter ça, notre chien va se sentir de mieux en mieux face à ces déclencheurs-là. Et progressivement, là, on ne rentrera pas là-dedans parce que j'en parle dans mon podcast, mais la définition de faire une activité dans un endroit où il ne se passe pas grand-chose va s'élargir parce que la définition de pas grand-chose pour votre chien va s'élargir aussi. Ce qui était difficile au début ne le sera plus. Et beaucoup de gens qui disent, bon, ça, on dirait que la réactivité de mon chien s'en vient de pire en pire en pire, c'est parce qu'au fond, sans le vouloir, on entraîne le chien à commencer à réagir à tout et n'importe quoi à force d'avoir ces contacts-là. Donc, c'était ma très longue réponse à est-ce qu'il faut aller promener notre chien à chaque jour? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre chien. Votre chien, il a son énergie physique à lui. Il a son énergie mentale aussi et il a aussi son énergie émotionnelle. Et vous aussi, vous l'avez aussi. Il faut prendre en compte, bien entendu, la personne qui est avec le chien. Moi, mes chiens sont capables de sauter une journée de promenade parce que je les ai entraînés de cette manière-là. Ils sont capables de sauter. Si je suis bien malade, je suis capable de sauter 2 ou 3 jours, là, mais là, la troisième journée, là, ça commence à être tannant, là. Parce que j'ai fait le choix d'avoir des chiens à haute énergie. Là, j'ai 2 border collies, un dalmatien, un corgi. Le corgi, c'est celui de la gang qui a le moins d'énergie. Donc, idéalement, moi, je les promène 2 fois par jour. Ça m'arrive de sauter parce que je veux qu'ils soient capables des promenades. Mais il faut, si je ne donne pas à mes chiens ce qu'ils ont besoin pour être bien, ben, ils ne seront pas bien, tout simplement. Et ça, ici, ça dépend de votre chien. Parce qu'on ne veut pas en donner trop non plus, parce que sinon, là, ça va créer d'autres types de problèmes, bien entendu. Fait que ça va dépendre de votre chien. De ses énergies et non pas de son énergie, de ce qu'il a de besoin. Mais du moment où vous allez commencer à voir ça de manière séparée, là, ça va aller vraiment mieux pour dépenser votre chien. Là, tu as tout fini de tes puzzles et tu as envie d'être tannante. C'est parce que quand on parlait d'énergie mentale, ma chienne, en soirée, elle n'en a plus. Elle a de la misère à se gérer. Fait que quand je fais des entrevues, en soirée, est un petit peu plus tannant puisqu'elle a de la misère à prendre des bonnes décisions. Tiens-tu?
C'est ça. Sa jauge est vide, donc là, elle a, comme tu dis, elle a plus de difficultés à gérer. Puis, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi avec la. Parce que j'ai répété ça toute la saison, de dire faut observer notre chien puis voir notre chien a besoin de quoi. Nos chiens, ce sont tous des individus.
Oui.
Comme les humains, ils ont tous des personnalités, ils ont tous des préférences. Puis j'ai aussi souvent répété, je sais pas, je te lance ça, là, de même, peut-être que tu vas me dire, je suis pas d'accord, mais moi, je pense que c'est pas de trouver l'équilibre, c'est de trouver l'harmonie. Parce que des fois, c'est pas, tu sais, comme tu dis, des fois, il y a des journées, on est malade, il faut sauter la marche, mais faut pas commencer à tout envoyer d'un bord. Parce que là, on va être, on aura plus, ça marchera plus. Mais en même temps, si on veut trop tout équilibrer, des fois, ben là, c'est nous que ça marche plus. Fait qu'il faut trouver la bonne recette, dans le fond, pour notre chien. Qu'est-ce que notre chien a de besoin? Puis oui, l'activité physique en fait partie. Ça, c'est assuré, là.
Ouais.
Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Ben, il y en a pas entre nous, en tout cas.
Comme nous, on est peut-être un petit peu plus différent, là, mais bon, hein?
Mais l'idée, c'est ça, c'est de voir comment on peut justement combler les différents besoins de nos chiens. Puis j'aime vraiment cette idée-là que tu amènes de voir vraiment comme avec une, tu sais, une jauge d'énergie physique, l'énergie mentale, puis l'énergie émotionnelle. Puis tu as justement quelque chose que tu appelles la règle du 20%, que je trouve vraiment intéressante, que c'est un peu, tu sais, justement, parce que là, on se dit, ben là, mon chien, je vais-tu marcher avec ou je ne vais pas marcher avec? Comment je fais pour décider que c'est le bon moment d'aller marcher? Fait qu'est-ce que tu pourrais nous présenter? C'est quoi la règle du 20%?
Mais moi, la règle du 20%, c'est quelque chose que j'applique afin de savoir quand mettre fin à une activité. D'où l'importance, comme on disait au début, dans « Ah, j'y vas-tu, j'y vas-tu pas? » Là, je vais l'expliquer parce que c'est important avec le point que je veux faire. Je vais toujours, quand je dis oui à une activité, avoir une porte de sortie, OK? J'en parle en détail dans le fameux épisode de podcast sur comment décider si j'amène mon chien ou non. Et si je décide d'y aller, donc je veux avoir ce que j'appelle une porte de sortie, c'est-à-dire la possibilité de faire le choix de m'en aller. Parce que je ne veux pas me retrouver coincé, tu sais, si je dis oui à un party, que j'amène mon chien, puis que j'arrive là, puis qu'après, genre, je sais pas moi, 20 minutes, ça va vraiment pas. Puis là, mon chien, là, il sent plus bien, là, tu sais. Et quand, tu sais, comme là, il faudrait que Rin aille se coucher, là, tu sais. Ben, si on était à un party, ben, il faudrait rentrer à la maison. Si je suis dans une situation où tout le monde va me faire, ben là, ça partira quand même pas tout de suite, mais ben, là, je viens de me peinturer dans un coin, tu sais. Et l'approbation des autres, c'est très important pour les êtres humains. Mais, bref, quand décider, c'est quand le moment pour s'en aller? Là, tu sais, je m'en vais faire ma marche avec mon chien, puis là, je vois des déclencheurs, je fais tout ce qu'il faut, là, tu sais, je suis super bonne, je suis mon plan. Avec mes auditrices, mes étudiantes, on utilise l'image « je suis une déesse du maniement du chien réactif ». Là, tu sais, ça veut dire que vous vous sentez en confiance, ou en tout cas, vous essayez d'avoir de l'air de vous convaincre que vous vous sentez en confiance. Au début, ça demande de la pratique. Vous faites vos exercices, voyez un déclencheur, vous le voyez comme une opportunité pour entraîner, pas comme « oh non, j'espère que mon chien réagira pas ce coup-ci ». Et à un moment donné, vous allez voir, votre chien va commencer à fatiguer. C'est normal. Pourquoi? Parce que son énergie émotionnelle commence à baisser. La nôtre aussi va commencer à baisser. Ce qui fait que même si physiquement, ses pattes sont encore capables d'aller, moi j'ai des border collie, là, ça peut aller très longtemps des pattes de border collie, des springs de dalmatien aussi. Mais à un moment donné, là, tu sais, vous le voyez, là, votre chien prend premier déclencheur, ça allait pas trop, ça allait bien, vous sentiez bien. Le deuxième, ah ouais, tu sais, comme ça allait bien, bon, il y a peut-être pas un petit pof pof quand il a vu, mais tu sais, vous avez rattrapé la situation, ça a été super correct. Troisième, tu sais, vous vous dites, il me semble que, tu sais, mon chien commence à être irrité un petit peu, tu sais, quand mon chien, ah, tu sais, quand il réagit, il a commencé à réagir, ou peut-être que mon chien avait plus de misère à me regarder pour se concentrer, par exemple. Okay, ça, c'est tous des signes que soit mon chien ou soit moi, on commence à fatiguer émotionnellement. Puis des fois, c'est mentalement aussi parce que, hey, ça nous en prend du jus là, pour l'accompagner, ce chien-là. Puis votre chien aussi prendre des bonnes décisions, de se rappeler de ses entraînements, c'est aussi très demandant dans son petit cerveau. Et là, quand vous voyez que ça va bien, mais que l'énergie commence à baisser, donc moi, je dis, là, il reste à peu près là, 20% de jus de cerveau à votre chien ou à vous. Là, c'est le temps de prendre la décision de rentrer à la maison. Et un des problèmes que les gens ont, c'est qu'on a souvent l'idée qu'il faut se rendre jusqu'à zéro avant d'arrêter. Okay? Toutes les histoires de persévérance, de continuer, de comme d'affronter l'obstacle, puis tout ça, vont dans cette idée-là qu'on a qu'il faudrait se rendre là jusqu'au bout de la corde pour se dire « OK, j'ai fait le maximum que je pouvais ». Le problème avec ça, puis oui, là, il y a des moments là, pour persévérer, puis passer au travers, puis blablabla, pour un humain, OK? Mais là, on a un chien qui est en réhabilitation. L'idée de ça, là, c'est que si vous vous rendez au bout de la corde du jus de votre chien, là, t'sais, avant de prendre la décision de virer de bord, puis là, vous rentrez à la maison, parce que vous avez là, clairement, mon chien, il est au bout, là. Il n'y en a plus de possibilité d'être bon dans ce petit chien-là. Vous rentrez à la maison, mais c'est quoi le risque que vous rencontriez des déclencheurs quand vous rentrez à la maison? Il est tout aussi élevé que quand vous êtes sorti de la maison. C'est pour ça que vous avez décidé d'aller faire des entraînements. Qu'est-ce qui va arriver si vous croisez des déclencheurs au retour à la maison quand vous avez un petit chien qui est au bout de sa corde, ben au bout de sa corde de jus, là, de mental, là, je parle pas au bout de sa laisse, ou vous-même, si vous en avez plus du jus pour l'accompagner, votre chien dans sa réactivité, ben il va déclencher. Puis vous allez vous sentir en stress, en situation de stress quand ça va arriver, donc vous aurez des réactions suboptimales, ce qui est un super beau mot, ça savant pour dire, vous allez réagir tout croche en faisant n'importe quoi, votre chien va vous irriter, vous allez juste penser que tout le monde vous regarde croche, vous allez vouloir expliquer à tout le monde, genre, bon sang, je m'excuse, mon chien, il est réactif, parce que vous allez être en situation de stress, là, on pourrait faire, vous irez voir l'entrevue que moi j'ai faite avec Audrey, on a tout expliqué les réactions de stress que vous allez vivre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en train de réfléchir avec votre cerveau, c'est votre instinct de survie qui embarque. Puis quand votre chien voit un déclencheur, bien, c'est son instinct de survie qui embarque, pas le bon petit chien à qui vous essayez d'apprendre à prendre des bonnes décisions. Et pour éviter ça, vous allez, quand vous sentez, là, il me semble que je suis encore on top of things pour utiliser un anglicisme, mais moi, je commence à fatiguer un petit peu, ou moi aussi, je vais rentrer à la maison en ce moment. Et là, le problème de ça, c'est que les gens disent, ouais, mais là, genre, si je rentre à la maison, je crois pas de chien, j'ai gaspillé une opportunité de travailler, peut-être. Mais si vous croisez un déclencheur pendant que vous rentrez à la maison, du bon jus de bonnes décisions pour votre chien ou vous, là, la faculté à être une déesse du maniement de chien réactif, il vous en reste à dépenser. Ce qui fait que même s'il y arrive une situation, je sais pas moi, genre vous rentrez à la maison, il y a quelqu'un qui sort de chez lui avec un chien, il y a un chien qui jappe au loin, vous vous faites charger parce qu'il y a un chien dans sa cour que d'habitude il est pas là, puis là aujourd'hui il est là, puis il vous voit, puis jappe, peu importe ce qui se passe, ça sera pas une catastrophe genre niveau C majuscule nucléaire parce qu'il va vous rester de la capacité à traiter cet événement-là. Vous ne serez pas au bout de votre vie et votre chien non plus. Et à force de répéter des contacts avec des déclencheurs, là, quand on parle de contact, là, on ne parle pas de contact physique où les amis chiens vont jouer ensemble. Là. Non, non, non. Votre chien, ses sens multiples ont connaissance qu'il y a une possibilité de déclencheur, même pas qu'il est là pour de vrai, là. Il y a une possibilité de déclencheur, c'est un contact. Si je marche, puis je m'approche d'une cour où des fois, il y a un chien qui est là, puis que mon chien, je le vois qu'il commence à s'agiter légèrement, je le prends en charge, je fais mes exercices, il se sent super bien, puis je prends la décision, peu importe la décision que vous allez prendre, on a toujours trois décisions, je vire de bord, je continue où j'entraîne, c'est les trois décisions en réactivité, il n'y en a pas d'autres que ces trois-là. Ça ici, c'est un contact, mesdames et messieurs, même si le chien n'était peut-être pas dans sa cour. Parce qu'il y avait perception d'une possibilité de déclencheur. Je l'ai géré comme une déesse du maniement du chien réactif. Qu'est-ce que mon chien y apprend? Quand il y a une possibilité de déclencheur, là ou pas là, on s'en fout, il se passe rien. Puis il y a un autre déclencheur, admettons, là, je sors dehors, j'entraîne, je vois un monsieur au loin qui promène son chien, j'entraîne mon chien, ça va super bien. Qu'est-ce que mon chien y a appris? Qu'il se passe rien. Et à force de répéter des contacts où il ne se passe rien, la réhabilitation va arriver de cette manière-là. Si vous répétez des contacts en promenade parce que vous vous dites, ben là, il faut que mon chien dépense son énergie, il faut que j'aille le promener, il faut que j'aille à la plage parce que je ne veux pas qu'il sente brimé, qu'à chaque fois que vous sortez de ces activités-là, votre chien, qu'est-ce qu'il a appris? Ah, oh, bon sang, genre, quand il y a eu un déclencheur, c'est la fin du monde, ben c'est ça que vous allez avoir, malheureusement. Donc, comme on disait pour la règle du 20%, vous voulez toujours vous garder du jus parce que la vie va vous frapper en pleine face. C'est ça, la réactivité. La vie va arriver, puis si vous avez plus de jus, vous allez être démuni. Puis votre chien va répéter des contacts où ça finit mal, plutôt que de répéter des contacts où il se passe rien. C'est ça, au final, qu'on veut. On veut pas tout le temps se rendre au bout de notre corde, puis persévérer, puis se sortir de la lassoir de notre... Tu sais, un contact avec un déclencheur, là, ça n'a pas tout le temps besoin aussi, le genre d'aide que votre chien a dû donner toutes ses ressources possibles de son petit être ou de son grand être, si c'est un grand chien, pour être bon. Tu sais, des fois, ça peut être facile aussi. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais bref, plus vous allez vous garder du jus avant de faire le choix de retirer votre chien d'une situation, plus vite ça va aller pour le convaincre que ça va bien. Parce qu'il ne sentira pas au bout de sa vie de tout.
Tout à fait. Puis, il y a quelque chose d'intéressant que je trouve que tu parles parce que oui, tu sais, il y a le 20% de notre chien. Mais il y a le 20% de nous aussi. Est-ce que nous, on a le jus mental, le jus émotionnel pour poursuivre? Puis ça me fait penser, j'avais fait un épisode dans la saison 2 où est-ce que je parle d'une fois que, juste ça, j'étais allée au bout de ma corde à moi. Ouais. Que j'avais eu, tu sais là, une journée de marde. Puis là, qui t'es à bout. Puis là, en plus, là, il faisait tempête dehors. Et là, moi, je me disais, tu sais, tantôt, là, quand je disais là, que les gens, ils pensent qu'il faut aller marcher son chien à tous les jours. Puis là, la véritable réponse, c'est ça dépend.
Mais moi, là, j'étais dans cette catégorie-là de non, il faut que je marche mon chien à tous les jours. Fait que même si je taboute, puis qu'il fait tempête dehors, puis que là, je marche dans la neige épaisse, puis que j'ai mal aux genoux, c'est pas grave, je vais y aller, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Mais mon chien aussi, que sa jauge émotionnelle a fait comme là, il y a l'autre qui est craqué en arrière, qui est de mauvaise humeur. Hé, hey, là, il vente full, il y a de la neige, ça m'énerve. Wouhou, c'est le party d'hiver. Puis là,
Oui,
qu'est-ce
parce que
qui est arrivé? Il y a un chevreuil qui a passé. Le chien a explosé, mais moi aussi, j'ai explosé parce que
ben
là,
oui.
c'était too much. Que
Oui.
j'aurais dû faire, hey, ça n'a pas d'allure, ça marche pas, on rentre à la maison. Mais
Ouais.
là, non, moi, je me disais, on est parti, il faut que j'aille prendre ma marche, on va aller faire notre marche au complet. Puis finalement, ben, la morale de cette histoire, c'est que j'ai appris de ça.
Oui.
je ne fais plus ça. Quand je vois que je ne
Non.
suis pas dans un bon état pour aller marcher mon chien, ben c'est là que je vais essayer de trouver d'autres stratégies. Ça ne veut pas dire que j'arrête de marcher mon chien puis que j'y vais plus jamais, mais c'est que c'est ça. Je mets en place autre chose pour dire, bon, ben aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans l'état nécessaire pour être capable de bien gérer mon chien si quelque chose arrive.
Mais
Qu'est-ce que je peux faire pour compenser dans le moment?
oui, puis tu t'as dit plein de choses que je trouve vraiment intéressantes. Tu vois, dis, j'avais dans l'idée qu'il fallait que j'y aille. Puis tu as dit, je vais aussi faire ma marche au complet. Et souvent, ces idées-là en réactivité, les il faut, ça ne nous aide vraiment pas. Parce que ce qui est important, là, c'est de regarder mon chien, comme on disait au début, là, est-ce que mon chien sent bien ou non? De quoi mon chien il a besoin pour se sentir bien? Est-ce que mon chien a besoin de faire la marche? Tu sais, si vous sentez là, vous approchez là, du 20% qui reste d'énergie émotionnelle de votre chien ou la vôtre, puis que vous êtes pas à votre marche complète, puis que vous vous dites, ouais, il faudrait que je vienne de bord. Vous allez avoir là, une petite voix là, dans votre tête, surtout si vous êtes fatigué, qui va dire, ouais, mais c'est parce qu'il faut qu'on fasse la marche tout au complet. OK? Ça, ici, c'est parce qu'on a des rituels. C'est normal, on ne rentrera pas là-dedans là, parce qu'on va se parler pendant des heures. Là.
Ben,
Sauf
on est bien
que,
parti.
ouais, mais tu sais, regardez votre chien, puis demandez-vous de quoi mon chien a besoin en ce moment pour se sentir bien. Je vous le répète, votre chien ne se comptera pas une histoire par rapport à lui-même sur vos décisions. OK? C'est un organisme qui est beaucoup plus simple que nous. Puis si là, vous vous dites en regardant votre chien, ce que mon chien il a besoin en ce moment, c'est que je viens d'abord et je rentre à la maison. Il n'y en a pas de marche complète qu'il faut que je fasse. Puis c'est intéressant aussi parce que tu sais, souvent, là, nous, là, on va promener nos chiens en soirée en rentrant de travailler au moment où on est fatigué. Mais quand on est fatigué, comme je le disais, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, on n'a plus nécessairement beaucoup. Parce qu'on a nos journées dans le corps. Mais c'est quand on est fatigué aussi que tous nos instincts, tous nos il faut, toutes nos pensées qui nous nuisent parlent beaucoup plus fort. Les chicanes de famille, ça arrive souvent beaucoup plus en soirée que dans journée. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués, ils ont de la misère à se gérer émotionnellement ou mentalement. Quand on n'a plus d'énergie pour se gérer émotionnellement, on tombe dans ce qu'on appelle des patterns, OK? C'est normal. Quand tu m'as demandé, Ève, tu veux-tu qu'on fasse ton entrevue ou mon entrevue avant? Je t'ai dit, on va faire la tienne. Parce que d'écouter les gens et de diriger la conversation, pour moi, c'est demandant. Fait qu'on va faire l'entrevue où moi, je jase, puis toi, tu m'écoutes, puis tu me dirigeras si je pars trop loin après. Parce que moi, quand je suis fatiguée, me faire la grand gueule. C'est correct, je suis de même, je le sais. Il y a des gens, c'est l'inverse. De parler, c'est demandant pour eux. Fait que moi, j'ai pris une décision avant qu'on enregistre parce que, tu sais, tout le monde, là, je vous le dis, on a enregistré les deux épisodes un après l'autre. Donc, j'ai pris la décision qui fonctionnait pour comment moi je fonctionne afin d'optimiser les résultats pour que ce soit le moins difficile possible. J'ai jaugé mon énergie mentale par rapport à l'heure qu'elle allait être. Mais ça, ici, on l'apprend en des fois se plantant en pleine face. comme toi avec ton chevreuil. Puis je le sais c'est quoi parce que j'habite en région moi aussi des chevreuils, on en a beaucoup. Genre mes voisins les nourrissent. Fait qu'à chaque fois que je sors mes chiens le soir, genre là, il faut que j'entraîne les chiens à pu sortir comme des bombes en soirée parce que là, ils cherchent des chevreuils qui mangent chez le voisin. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc
moi, c'est pas tant les chevreuils ces temps-ci que les dindes sauvages.
Ah oui, ça aussi. Quand il arrive un incident, là, plutôt que de vous dire « Ah oh, bon sang, j'y arriverai jamais, mon chien il est réactif, c'est la fin du monde! J'essaie tout, puis il n'y a rien qui marche. » Okay? On les a tous eu ces pensées-là, moi aussi. Okay? Je ne suis pas en train de vous blâmer. Demandez-vous quelles informations j'ai maintenant suite à cet épisode-là. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va le trouver, le 20%. Tu sais, si j'amène mon chien au bout de sa corde, puis qu'il explose, puis que là, là, du bon chien dans le chien, il n'y en a plus, ben je peux aussi me demander, c'est poche que ça l'arrive, là. Tu sais, on s'entend, là, il n'y a personne qui trouve ça drôle. Mais plutôt que de le voir comme un échec, demandez-vous, qu'est-ce que j'aurais pu voir avant que ça arrive? C'était quoi les signes? Est-ce que, par exemple, comme je le disais, quand je demandais quelque chose à mon chien, il y avait de la misère à se concentrer? Est-ce qu'il y avait de la misère à m'écouter? Est-ce qu'il faisait la girouette à regarder partout? Est-ce qu'il s'est mis à sauter dans le cas de Nine, Madame Massé? Quand on n'a plus de jus, là, elle saute, puis elle me demande constamment, mais elle ne demande pas avec des mots, là, mais et comme toujours après moi, tu sais. Fait que, alors qu'un autre de mes chiens, quand il est proche de sa limite, là, il n'est plus capable de se concentrer sur moi. Ça va être individuel. Fait que quand il arrive un incident, demandez-vous c'était quoi les signes avant. Puis faites-vous comme une séquence dans votre tête. Puis lorsque vous voyez que cette séquence-là de signes que votre chien vous montre, elle commence, c'est le temps de commencer à penser à s'en aller, là. Puis même avant. Et plus vous allez observer, en essayant de vous demander qu'est-ce qui s'est passé avant et après ça, plus rapidement vous allez être capable de lire votre chien. Et une fois que la lecture de votre chien devient bonne, là, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle des décisions proactives, comme faire « je vais rentrer à la maison ». Parce que mon chien, il commence à être fatigué. Ou comme toi, tu sais quoi, bébé chien, moment, a sa journée dans le corps, on va faire autre chose à soir. Puis tu sais, même moi là, qui est anti-balle, on pourrait faire un autre épisode là-dessus. Ça m'arrive d'aller lancer la balle dans la cour en faisant le garde là, ouais, vas-y là, amuse-toi, tu sais. Mais c'est une fois de temps en temps. C'est pas à répétition parce que c'est la seule façon que j'ai de dépenser mon animal qui devienne complètement craqué. Donc, il y a, comme tu disais, harmonie. Tu sais, on ne vous est pas tenu à la perfection 24 heures sur 24, là.
Ah
votre
non?
chien, non. Mais tu sais, moi, je fais de l'anxiété et de performance aussi, mais bref, c'est une leçon qui est plus facile à apprendre à mes étudiantes et à mes chiens qu'à moi-même, mais on s'en reparlera une autre journée. Mais tu sais, vous n'êtes pas tenu à la perfection, puis comme on dit, ça arrive des situations où on est comme « ouais, là, mon chien, il a réagi ». Fait que voyez-le comme quelle information ça m'a donné, quelle information j'ai maintenant que j'avais pas avant, ou qu'est-ce que ça confirme que je pensais aussi, parce que tu sais, comme on parlait là, des chiens au début, vers le milieu, de se demander à quel point il y a de l'énergie pour l'établir, ça veut dire qu'on a essayé des affaires. Puis des fois, on a essayé des affaires, puis on s'est dit, finalement, cette longueur de problème là, c'est clairement pas assez. Ou des fois, on a dépensé, puis on le fait, oh, t'as pas, il est surstimulé, ce petit bébé-là. Puis des fois, même moi, là, ça m'arrive lorsque j'ai un nouveau chien. J'ai eu souvent des nouveaux chiens parce que j'en ai quatre, puis j'en ai eu deux autres avant ces quatre-là, tu sais. Que puis j'en ai eu un en famille d'accueil aussi. Tu sais, des fois, tu regardes le chien, puis il est agité, puis t'es comme sérieux, je sais pas si ce chien-là a besoin d'aller dépenser son énergie ou s'il est surstimulé parce qu'il a trop dépensé son énergie. Fait que des fois, ça veut dire qu'on va faire un test. Puis ça va nous exploser dans pleine face, puis on va faire « Ah, il était surstimulé finalement! » Mais vous allez l'apprendre. Demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de ces choses-là? » Plutôt que de faire « Ah, ben c'est arrivé. »
Ouais. Puis je vais me permettre de reploguer encore un épisode que j'ai fait qui était sur la mentalité de croissance, où est-ce que, justement, c'est cette idée-là que les erreurs, elles vont arriver. Les échecs, ils vont arriver. Puis au lieu de prendre ça comme une fin en soi, puis de désespérer, c'est de voir comment on peut apprendre de ça pour s'améliorer, pour grandir, pour fait que c'est normal. Tout le monde en fait des échecs, tout le monde en fait des erreurs. On n'est pas tout seul dans notre coin, puis au contraire, c'est comme ça qu'on apprend.
Oui. Puis tu sais, on a beaucoup dans notre culture cette idée-là de l'avoir du premier coup, que l'échec, c'est pas bon, que l'échec, ben, le mot le dit, c'est une finalité qui est pas bonne. T'as échoué. Alors que pour apprendre, il faut faire, pour apprendre, il faut essayer. Quand on essaye, ça veut dire qu'on peut se planter, comme je le dis. C'est comme moi, là, avec les chiens, que des fois, j'étais comme, je ne sais pas si ce chien-là a besoin de plus ou de moins. Je ne sais pas si je l'ai surstimulé, puis là, il ne gère plus, ou je ne sais pas s'il a besoin de plus d'activité pour être capable de s'apaiser. Puis des fois, ben, il faut l'essayer. Il faut essayer de l'envoyer faire dodo, puis d'accepter la crise, puis après ça, de regarder, oh, finalement, il y avait peut-être besoin d'une activité. Faut que c'est rarement celui-là, je me rends compte maintenant avec mon expertise. Ou je vais essayer d'aller faire une petite promenade tranquille, voir si ça le calme, finalement, de faire, oh, c'est parce que le chien, finalement, était surstimulé. Puis ce qu'il a besoin, c'est d'aller se coucher. Il va faire une petite cri-crise parce que là, je l'ai complètement surstimulé. Puis après ça, ben, il va crasher. Donc, oui, définitivement. T'sais, puis c'est poche en réactivité quand il arrive que votre chien va déclencher, va réagir, va vous faire honte devant tout le monde, va exploser, peu importe le terme qu'on veut utiliser. On souhaite pas que ça arrive. Bien entendu, comme je dis tout le temps à mes étudiantes, on veut pratiquer le non-événement. Mais si ça arrive, voyez-le comme une mine d'informations sur tout ce que vous pouvez apprendre de cet événement-là, qui est, si on le répète parce qu'on refuse d'en apprendre, là, c'est un échec. Mais si on se dit, gars, c'est arrivé, maintenant, j'ai des informations, bien, de bord, c'est quelque chose qui fait partie de votre processus. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je pense qu'elle est fondamentale.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que c'est un bon point pour conclure l'entrevue d'aujourd'hui. On a fait un bon tour de roue. Puis je pense que là, ça, c'est comme une bonne note positive sur laquelle terminer. Fait que juste avant de se dire au revoir,
À
faire
faire
un
des
petit
jardinages
rappel.
éventuellement.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler? L'événement réaction, c'est quoi? Où c'est qu'on se rend pour avoir les infos? Ben là, la
Oui.
question, la réponse à ça, c'est dans les notes d'épisode, mais je vais te laisser
Bien
aller.
entendu. Mais si ça vous parle, ou si vous avez un chien qui est réactif, si votre chien, il n'est pas juste réactif, mais vous savez là, qu'il y a des besoins, là. T'sais, si vous avez besoin, aussi, si vous, là, ça, je le fais en parenthèse, si vous avez un chien fait pour une fonction, un chien de travail, un chien de berger, ou puis vous vous dites, j'ai l'impression que les gens qui me donnent des conseils, ils ne comprennent pas mon chien. Okay? Pour vous aussi, ça va s'appliquer. Inscrivez-vous à l'événement Réaction. Vous allez avoir accès, premièrement, à une communauté en or pour plus vous sentir tout seul dans votre coin. On va vous donner des pistes de solutions dans l'événement Réaction. Il va y avoir, comme je disais, une quinzaine de présentateurs. Moi, ma co-organisatrice, Audrey, 12 autres personnes, c'est Matt, parce que ça fait 3, fait qu'il en reste 12. Et il va y avoir plein de présentations sur plein de sujets parce que, tu sais, la réactivité, là, c'est vaste. Il y a des choses qui vont s'appliquer à vous, il y a des choses qui ne s'appliqueront pas à vous. Vous ne pouvez pas prendre une recette, la mettre sur votre chien, ça ne marchera pas. Si c'était pour marcher, le problème serait déjà réglé, comme je dis toujours aux gens. Fait qu'on essaie d'y aller de plein d'angles différents. Puis il y a quelque chose qui va finir par vous parler. Vous allez vous dire, j'avais pas vu ça de cette manière-là. Ou, ah, oh, c'est pour ça que mon chien fait X. Ou, ah, oh, c'est pour ça que je fais X parce qu'il y a l'humain aussi là-dedans. Inscrivez-vous à Réaction. Donnez-vous ce cadeau-là à vous et à votre chien, même si c'est juste de ne plus vous sentir seul. Mais les webinaires vont tellement vous aider. Vous avez accès à la rediffusion des webinaires tant que la plateforme va exister. On va même avoir un podcast privé cette année, au fond, pour vous permettre d'écouter les rediffusions pendant que vous êtes pogné dans le trafic enragé parce que l'autre en avant, il ne s'est pas chauffé. Tranche de vie. Mais... ça va vraiment vous aider. Et si vous nous écoutez dans le futur, après que l'événement soit passé, comme on le disait, la date limite pour vous inscrire, c'est le 4 mai, mais on commence le 17 avril. Donc, inscrivez-vous tout de suite. Attendez pas à la dernière minute. Mais si jamais vous êtes passé le 4 mai, puis là, vous êtes comme, mon sang, je me sens toute abandonnée après ce magnifique speech de présentation, vous pouvez quand même venir me suivre à mon podcast, promener son chien réactif. Je vous donne plein d'informations comme celle-ci. Et dans mon podcast aussi, il y a les informations sur mon programme Mon chien réactif pour vous aider à avoir enfin des solutions pour vous aider avec votre chien par quelqu'un qui comprend votre chien, comprend c'est quoi la réalité d'avoir un chien à haute énergie aussi et qui a réhabilité des chiens qui étaient réactifs, qui maintenant, je présenterai mes chiens qui étaient réactifs avant à des gens qui ne le savent pas, je ne leur dirai pas, ils s'en douteraient jamais. Donc, c'était la fin de mon merveilleux speech. Je vous entends, que ce soit dans réaction ou sur le podcast, il y a des solutions. Vous n'êtes pas tout seul. Je peux vous aider, la communauté. Et là, pour vous, ça va me faire plaisir de vous accueillir.
Bien, merci beaucoup, Ève. Encore une fois, les liens pour tout ça vont se trouver dans les notes d'épisode. Puis, on se dit peut-être à une prochaine, dans une autre saison, qui sera, c'est à suivre.
Ben, on ne sait jamais.
Bye bye.
Bye.